Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Boîte à Clés. Je suis Catherine Baudouin, je suis coach personnel et professionnel et j'ai le plaisir dans ce podcast d'essayer de vous apporter un éclairage nouveau sur certaines thématiques de développement personnel ou professionnel. Pour cela, j'interview des personnes qui ont des histoires de vie inspirantes à raconter et je partage également des techniques et outils un peu plus théoriques pour vous permettre de faire avancer vos propres histoires de vie. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite tout simplement à vous abonner sur la plateforme de votre choix, ce qui peut aussi permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas également à le partager si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un que vous connaissez. Et enfin, vous pouvez aussi me faire vos feedbacks pour me permettre de faire avancer ce travail ou me proposer des thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans un prochain épisode. Pour celui d'aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de rencontrer Nathalie Séjean. Nathalie, elle est fabriqueuse d'histoires. Autrement dit, elle est réalisatrice, scénariste, illustratrice, bref, ça regroupe plusieurs métiers et en tout cas, ce qu'elle aime particulièrement, ce sont les histoires et surtout les raconter de différentes manières et avec différents supports. Selon elle, nous créons tous des choses uniques, nous exprimons tous notre individualité dans la manière de faire les choses, peu importe ce que nous faisons. Sa philosophie de vie est de vivre pleinement, de faire les choses qu'elle aime et de suivre son instinct. Nous sommes d'ailleurs tous responsables de notre vie et de ce que nous en faisons. Tout est une question d'interprétation et de vision des choses. Libre à chacun d'entre nous de choisir l'interprétation qui nous convient. Dans cette interview, elle nous parle de son parcours, de ses expériences, de ses choix, de sa conférence TEDx fin novembre 2018 et surtout de cette philosophie de vie qu'elle résume très bien en une phrase qui est la suivante. Écoute ton intuition, lance-toi et recommence. Elle nous explique selon elle l'importance de faire des petits pas, d'essayer, de faire, d'apprendre et de refaire. Je vous en ai déjà beaucoup dit et pour être franche avec vous, l'échange que j'ai eu avec Nathalie, il a duré au total 2 heures. En même temps, c'est son métier de raconter des histoires et elle le fait tellement bien que c'était un peu prévisible en lui demandant de me raconter la sienne que ça allait durer un certain temps. Je me suis donc régalée pendant cette interview et autant vous dire que j'ai eu un gros travail à faire au montage. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité pour certains passages. Au final, l'épisode terminé que je vous propose aujourd'hui dure environ 1 heure. L'avantage d'un podcast, c'est que vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, le mettre sur pause et revenir plus tard si vous ne pouvez pas l'écouter en une seule fois. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient écouter l'interview dans sa globalité, elle est disponible sur mon site internet www.cbcoach.fr dans la rubrique podcast. Pour le moment, je vous laisse donc en compagnie de Nathalie Séjean et comme d'habitude, je vous retrouve en solo pour conclure cet épisode. Bonjour Nathalie.
Bonjour Catherine.
Merci beaucoup d'être sur le podcast.
Merci de m'avoir invitée.
Un vrai plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui et de pouvoir échanger avec toi. Je t'ai entendue au dernier TEDx Reims en novembre dernier. J'ai été totalement emballée par ton discours.
Merci.
Et j'avais vraiment envie, j'étais curieuse d'approfondir ces sujets-là avec toi. C'est pour cette raison que j'ai voulu t'inviter sur le podcast. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux commencer par te présenter simplement en nous disant qui tu es, ce que tu fais et d'où tu viens notamment ?
Eh ben oui, je peux faire ça, tout à fait. Alors, je m'appelle Nathalie et qu'est-ce que je fais ? Je fabrique des histoires. Donc, je raconte des histoires que je crée ou que j'imagine ou que je partage sur plein de médiums différents. Mais je pense qu'on reparlera de ça. Mm-hmm. Et je suis rémoise d'origine. Donc je suis née à Reims, j'ai grandi à Reims jusqu'à 19 ans. Et après, je suis partie, j'ai été à Paris pendant plusieurs années. J'ai été aux États-Unis pendant plusieurs années, j'ai été en Turquie et maintenant je suis de retour en France et je suis basée à Lille.
D'accord. Et à chaque fois c'était déjà pour exercer ce métier-là ou tu as fait d'autres choses dans ta vie ?
En fait, ce titre de fabriqueuse d'histoire, c'est un titre que je me suis attribué et qui finalement résume ma vie. Mm-hmm. C'est une construction, c'est le résultat
de ton parcours.
Ouais, c'est le résultat de mon parcours. Au début, j'ai fait des études. Moi, j'ai toujours voulu faire des films, mais bon, c'était déjà une autre époque puisqu'il n'y avait pas il y avait Internet, mais ce n'était pas l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas YouTube, etc. Donc, en fait, il n'y avait pas de plateforme gratuite de diffusion, ni même de smartphone pour filmer gratuitement.
Donc, il y avait moins de possibilités pour ces métiers-là, enfin, voilà. En tout cas dans ce domaine-là.
Oui, et surtout, oui, il n'y avait même pas de possibilité d'apprendre à le faire. Enfin, moi, j'ai économisé assez rapidement beaucoup d'argent pour... Oui, je dis beaucoup
d'argent. L'argent qui...
Non, mais je dis beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui, acheter un smartphone, c'est une action totalement... on n'y réfléchit même plus. Même si un iPhone peut-être, mais on pourrait avoir pour 250€ un téléphone qui filme. Mmh. Et moi, j'ai passé des années à économiser pour m'acheter mon premier caméscope. Ça a été des années de vendange et de babysitting. Ouais. Donc, c'est pas du tout la même dynamique. Et puis, j'ai acheté un caméscope, j'ai acheté un ordinateur, j'ai appris à faire du montage, j'ai appris à filmer, j'ai appris à écrire des histoires, mais ça ne changeait pas le fait qu'en fait, je savais pas comment on faisait pour faire du cinéma un métier et que j'étais pas du tout dans une famille qui est liée à ça et c'était pas facile d'avoir des informations sur ce sujet-là. Donc, j'ai fait des études de métier du livre et à Paris et je suis devenue, parce que j'adore lire et j'adore les livres, j'adore les histoires en fait. Voilà, le fabriqueuse d'histoires, c'est le résultat de moi qui a compris qu'en fait ce qui me plaît, c'est pas de faire des films ou de lire des livres ou d'écrire des livres ou de vendre des livres, etc. Mais, ou de faire du dessin, c'est le résultat de, en fait, ce que j'aime, c'est les histoires.
Okay.
Et après, j'ai compris que toutes les histoires ne peuvent pas être dites de la même façon. Mm-hmm. Il y a une raison pour laquelle il y a une symphonie, et il y a raison pour laquelle il y a un film, il y a une raison pour laquelle cette histoire est une pièce de théâtre, et cette histoire va être un livre pour enfants, et cette histoire va être un podcast.
D'accord.
Et il y a certaines histoires qui peuvent être liquides et devenir plein de... peuvent devenir un film, une série, voilà.
D'accord.
Et mais il y a des histoires qui sont vraiment faites pour être dans certains médiums, et c'est tout.
Et... Comment tu fais ça pour le...
Non, je pense que ça, c'est une conscientisation due au marketing et au capitalisme d'aujourd'hui. À l'époque, je pense que les gens ne se posaient même pas la question de savoir si leur manga allait devenir un film et allait devenir des figurines. Et enfin, ça fait pas si longtemps que ça qu'on fait ça, en fait. Mais moi, c'était plus de me dire, il y a des instincts que j'ai naturellement sur certaines histoires que j'ai envie de faire comme un dessin ou comme un film ou comme un podcast, par exemple. Mm-hmm. Et après, pourquoi pas les faire glisser sur d'autres choses. Mais là, je pense qu'à ce moment-là, ça devient plus du marketing. Enfin,
d'accord.
Sans dire que c'est pas bien, mais je pense que naturellement, un auteur, un créateur d'histoire, il va être attiré par le médium qui lui semble le plus cohérent, ou alors par lequel il s'exprime toujours. Si c'est un chorégraphe, je pense qu'il va toujours le faire à travers la danse. Mais moi, j'ai décidé justement de ne pas vouloir me positionner sur une spécialisation d'un médium.
D'accord. Donc le point de départ, c'est ton amour finalement pour les histoires, ta passion pour les histoires, et après quelque part tu les mets en scène de différentes façons possibles, que ce soit un film, un court-métrage ou un podcast, tu choisis le moyen pour raconter cette histoire.
Ouais, mais en fait c'est hyper organique. Enfin, le point de départ, c'est que je me suis mise à vendre des livres. Puisque j'étais libraire.
T'étais libraire à la base.
Voilà.
Okay. Ton premier métier, ça a été d'être libraire.
Mon premier vrai métier, puisque j'ai fait des vendanges et des trucs comme ça, mais mon premier métier de sortie de diplôme, on va dire, c'était d'être libraire. J'ai été libraire pendant 3 ans et j'ai adoré faire ça. C'est un métier qui est super, même si ça reste un métier de vente, donc avec des horaires compliqués et dénigrés et pas très bien payés. Mais ça reste de vendre des livres et de communiquer avec les gens sur un produit au final qui est formidable. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais pas envie de passer ma vie à consommer les histoires d'autres gens et moi-même à être passive.
D'accord.
Et en fait, j'ai eu cette prise de conscience assez forte, je m'en souviens assez clairement, de plus avoir envie d'absorber simplement ce que les gens me donnaient, mais aussi moi-même d'être active dans le monde dans lequel je vivais.
De donner aussi, c'est ça ?
Ouais, de créer, de... C'est, parce que ce qui m'attire vraiment, c'est cette idée que chacun d'entre nous crée quelque chose d'unique parce que personne ne va assembler les choses de la même façon, mm-hmm. quelle qu'elle soit. Mm-hmm. Alors les gens ils pensent toujours à l'art, mais c'est pas obligatoirement de l'art, mais mm-hmm. même le positionnement des objets sur cette table, mm-hmm. moi je les aurais pas mis de la même façon. Mm-hmm. Et ça c'est une création, alors mm-hmm. après est-ce que c'est une création qui change le monde ? On peut débattre, mais c'est cette idée qu'on est tous à la source de création de choses, on assemble des choses qui font qu'elles existent, et elles existent de façon de unique, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons les faire, sauf si tu travailles chez IKEA. Mais tu vois, l'idée c'est, ouais. voilà, il y a un monde de gens qui essayent de systématiser les choses, et il y a un groupe de gens qui essayent de désystématiser les choses dans la création, je pense.
Ok. Je sais pas. Oui, oui. Alors du coup, ça faisait partie des sujets aussi que je voulais aborder après, avec toi après, mais du coup là, tu me tends la perche, je vais la saisir. Est-ce que tu es en train de dire que derrière ça, finalement, on fait tous de l'innovation ? Parce que, tu sais, moi, j'ai créé mon entreprise.
Ouais.
Et l'innovation, c'est un sujet qui revient très souvent, très fortement. On dit, il faut innover, il faut être innovant, il faut ouais. se démarquer, etc. Oui, pourquoi pas. Mais en même temps, on fait, comme tu viens de le dire, de toute façon, des choses, chacun fait ses choses de manière unique. Et rien que ça, c'est une forme d'innovation.
Alors pour moi, je sais pas si je connais un petit peu le vocabulaire start-up. Mm-hmm. Je sais pas si innovation, c'est pas tout à fait pareil pour moi que de la création.
D'accord.
Parce que l'innovation, il y a en plus cette idée que ça n'a jamais été fait avant.
Oui.
Mais c'est par exemple, c'est pas que personne n'a jamais fait ça comme ça aujourd'hui sur la façon de mettre les objets sur la table. Mm-hmm. C'est juste que je sais pas comment expliquer ce qui est. C'est dans cette création, c'est unique par rapport à toi parce que. C'est un petit peu mystique ce que je vais dire, mais. Il y a cette énergie qui est propre à toi.
Il y a une sensibilité qui est propre.
C'est, en fait, ce qui me bloque un peu avec le côté innovant, c'est justement le vocabulaire start-up, de vouloir que ce côté fusée, ce côté roquette, ce côté... c'est pas seulement... Faut pas... Cette pression, ce truc dont je parle justement dans mon tête, de cette pression que tout doit être énorme.
C'est ça.
C'est pas, tu peux pas juste te satisfaire d'avoir posé des objets sur une table et te dire que bah, c'est ton individualité
c'est
qui s'est exprimée
beau,
par
ouais,
rapport à
ça.
C'est qu'en plus, il faut que tu puisses dire « Et donc, j'ai vendu un système pour que 250 000 personnes en une semaine mettent leurs objets comme ça. » Et c'est ça, moi, je trouve... je sais pas si tout est innovation. Je pense pas que tout soit innovation. Par contre, je pense que... je pense qu'on se donne beaucoup moins de crédit on devrait être plus attaché à regarder ce que l'on fait soi-même et à questionner ce qu'on est en train de faire et à comprendre qu'en fait chaque chose que l'on fait c'est un acte qui peut avoir une importance folle un jour. Si on pensait comme ça, si au lieu de vouloir se dire il faut absolument que je monétise tout ce que je fais ou il faut absolument que j'ai un retour immédiat sur ce que je suis en train de faire pour prouver aux autres que ce que je fais a de la valeur et qu'on était juste en train de se dire que potentiellement chaque chose qu'on fait peut avoir un effet papillon et accepter le fait que cet effet papillon on sera peut-être jamais au courant qu'il existe et donc être humble par rapport à ça et c'est tout enfin je veux dire
et du coup faire les choses simplement
et en même temps se responsabiliser un petit peu aussi. Au lieu de te dire que rien de ce que l'on fait... Parce qu'il y a un côté déresponsabilisant, en fait, de se dire que c'est que lorsque l'on a un retour sur ce que l'on fait que ce que l'on fait a un impact.
A un impact et a de la valeur.
Voilà. C'est le fait de... C'est qu'en fait, je pense que on finit par penser qu'on ne nous voit pas. Et donc, c'est pas grave. Ça n'a... Alors, il y a le côté un peu victime, ça n'a pas d'importance,
En tout cas, aux yeux des autres, ça n'a pas d'importance.
Mais voilà.
Donc, ça n'a pas de valeur.
Voilà. Et en même temps, t'as le côté aussi... Bah, ça va rien changer, donc je fais une action un peu... Donc je mets pas forcément le poids que je pourrais mettre dans l'acte que je fais.
D'accord.
Et je me déresponsabilise. Et je dis oui, mais bon, mais en fait c'est pas très grave. Mm-hmm. C'est juste ça. Mm-hmm. Ou alors, bah non, mais je pensais pas. Bah pense alors. Mm-hmm. Enfin, tu vois,
ouais.
Ça veut dire quoi, je pensais pas ? Enfin, pense, c'est ça le principe d'être un adulte, c'est... Réfléchis à ce que tu fais et tu peux pas juste te dire je pensais pas. Enfin, c'est. Bon, bref. Okay. Je suis partie sur une tangente.
Non, mais très bien, on va continuer la tangente, mais je voudrais juste finir de boucler ton parcours. Donc, libraire dans un premier temps. Je crois savoir que tu as tout plaqué pour partir aux États-Unis, c'est ça?
Ouais, bah, j'avais pas grand-chose à plaquer, hein. J'avais juste mon... mon métier.
Ton métier de libraire.
Enfin, mon métier, mes amis, tout ça, mais je veux dire... Oui, bah en fait, quand j'étais en librairie, justement, quand j'ai eu cette conscience du fait que j'étais frustrée de simplement être le pont entre les gens qui créaient et les gens qui avaient envie de découvrir les créations des autres, petit à petit, je me suis mise à faire... j'avais déjà mon ordi et mon... En fait, j'avais jamais arrêté de faire des films, mais simplement, c'est à l'époque, il n'y avait pas de plateforme de distribution, YouTube n'existait pas. Quand je faisais des vidéos, je pouvais juste les montrer aux gens qui venaient dans ma chambre devant mon ordinateur.
Donc c'était pour toi et tes proches, en fait, ce que tu faisais, c'est ça?
C'est pas que c'était pour moi et mes proches, c'est qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire.
D'accord.
C'est pas, je me disais pas, c'est pour moi et mes proches. C'est difficile de se rappeler qu'il y a eu un temps où, quand on faisait une vidéo, on ne pouvait pas l'envoyer aux gens, en fait. Ni WeTransfer n'existait pas, YouTube n'existait pas, Dailymotion n'existait pas. Enfin, c'était pas ah mais non, je veux pas le montrer aux gens. C'est il n'y a pas de façon de le montrer aux gens. Donc je me dis pas, j'étais même pas dans la frustration de pas le montrer aux gens.
Parce que tu imagines même pas qu'un jour ça va être possible en fait à ce moment-là.
Mais je me pose pas la question.
Ouais. Ouais.
Mais je vis juste dans mon temps.
Tu fais ce que t'as envie de faire.
Je fais ce que j'ai envie de faire, mais je suis à un moment de la vie où ce que j'ai envie de faire est limité par la technologie. Donc je fais des sketchs, je fais exactement ce que font les Norman et les Natou et tout le bordel d'aujourd'hui, mais à l'époque ça restait chez moi.
À ton échelle.
Et
alors juste du coup pour finir sur ce que t'avais commencé à dire tout à l'heure, comment tu t'es formée à ça? Parce que...
Bah toute seule, j'ai acheté un livre, j'ai appris à faire du montage avec un livre qui s'appelle peut-être toujours... enfin maintenant il y a YouTube, faire du montage pour les nuls.
Ok.
Voilà, oui, j'ai acheté un livre en noir et blanc qui m'a coûté 7,99€ à la Fnac et j'ai appris à faire du montage toute seule avec mon livre. Et à l'époque il y avait quand même ce système de forum qui existe encore mais sous une forme un peu différente aujourd'hui, où il y avait des gens sympathiques, passionnés et généreux, je ne sais pas, qui leur passion c'était de répondre aux problèmes des autres gens.
D'accord.
Et donc quand j'avais des problèmes, j'envoyais un message en disant ouh, je comprends rien, et on s'aidait, mais sans, enfin je veux dire, c'est d'ailleurs intéressant d'essayer de se souvenir que finalement quand on veut vraiment communiquer, il n'y a pas beaucoup de barrières, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas prendre de capture d'écran, on pouvait pas c'était juste des mots.
Donc c'était, mais à l'époque c'était déjà par mail, c'est ça?
C'était des, sur internet, c'était des forums sur...
D'accord.
C'était des forums,
des forums comme on en connaît aujourd'hui.
Oui, mais
ça n'avait pas la même ampleur.
Bah, ça n'avait pas la même ampleur, et surtout il n'y avait pas de vidéo, par exemple. On ne pouvait pas dire tiens, un lien YouTube pour regarder cette vidéo, tout était par des mots. Enfin c'est fou. Je suis assez enfin je trouve ça fou parce que on parle de il y a 10 ans en fait, hein. Je précise pour les gens qui comprennent pas de quoi on parle, peut-être que c'est pas, je parle pas de 1972. Je parle de 2008. Enfin 2004-2005 en vrai. Ce moment-là, c'était 2004-2005, 2003-2004-2005, donc j'ai appris à faire du montage toute seule.
Donc tu as commencé la mesure de ce qui était possible de faire à ce moment-là.
Ouais.
OK. En parallèle de ton métier de libraire.
Ouais, et je faisais aussi je le dis parce que je trouve que c'est un truc qui me tient à cœur, mais un truc que j'ai fait, c'était que je m'étais inscrite, j'avais trouvé à l'époque une école canadienne francophone, qui offrait des cours de cinéma en ligne pour apprendre à écrire des scénarios.
D'accord.
Et donc pareil, hein, c'était que du texte, enfin c'était hyper tristoun en termes de contenu rétrospectivement, mais à l'époque c'était ce qui existait, et j'avais payé ça, je sais plus combien, mais en tout cas c'était pas tellement cher, avec mon salaire j'avais pu me permettre de me payer cette formation. Et quand je rentrais le soir de mon travail, je passais du temps à faire ces cours devant mon ordinateur dans ma chambre, et en fait ça, je pense que c'est un trait hyper important. C'est l'éducation continue, continuing education, comme ils disent.
La formation continue.
Et en fait, moi, c'est un truc que j'ai toujours eu, parce que finalement, j'ai jamais eu l'opportunité d'étudier officiellement ce que j'avais vraiment envie d'apprendre.
D'aller dans une école, d'avoir quelque chose de très...
Donc, j'ai cherché des chemins de traverse, et c'est resté dans ma vie. C'est quelque chose qui est vraiment resté dans ma vie, sur laquelle c'est comme ça que je me suis développée. C'est de pas avoir cette mentalité de dire j'ai fait des études pour ce travail, je fais ce travail. Si je veux changer de travail et que j'ai besoin de refaire une formation complémentaire, je fais une formation complémentaire. Mais entre les deux, il y a une espèce de vide où, en tant qu'adulte, je suis payée pour faire ce travail et à côté, je rentre chez moi dépenser l'argent que j'ai gagné pour faire ce travail. Mais et c'est même pas par rapport juste au monde du travail, hein, c'est en termes de ce qu'on appelle le développement personnel aujourd'hui, qui est le meilleur mot, mais qui est un peu chargé. Ouais. Mais c'est... Si tu veux avancer, en fait, faut que tu mettes de l'essence dans ta voiture, quoi.
Oui. Mais l'essence, c'est à toi de la mettre.
Oui, et c'est à toi de la payer aussi. Ouais. Enfin, quelque part, en France, on a aussi un petit peu ce truc de... Comme on a l'habitude de... Enfin, je dis ça, c'est parce que je suis partie pendant longtemps et que moi, j'ai jamais trop été dans ce système-là, mais...
Et t'as vu d'autres choses.
Si on ne me paye pas pour faire ma formation, je fais pas de formation. Enfin, c'est un peu insistant. Oui. Mais en fait, c'est ta vie. Donc, tu peux ne pas faire de formation si on ne paye pas, mais tu peux aussi attendre de mourir sans jamais faire cette formation.
Cette formation-là, oui, bien sûr. Ah, oui,
c'est...
Tout à fait.
Voilà.
Oui, c'est la notion de responsabilité et de se prendre en main, mais de savoir ce qu'on veut aussi exactement.
Oui, mais en fait, je pense pas qu'il faille avoir besoin de savoir ce qu'on veut. Je pense juste qu'il faut être suffisamment courageux pour écouter ce qu'on a envie de faire à ce moment-là et avoir confiance dans la vie et se dire, c'est peut-être pas du tout ça. Mais si je commence pas par ça et que j'attends de savoir quel est le bon truc, en fait, si t'attends de savoir quel est le bon truc, bah
tu risques d'attendre longtemps.
Ouais, il y a un pourcentage de gens à qui ça arrive dans la vie, effectivement, qui trouvent tout de suite le truc qui leur va bien, et même quand ils font des changements de vie, bah ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Mmh. Et ça s'appelle aussi du storytelling. Je veux dire, on raconte ce qu'on a envie de mettre en avant sur nous, et on oublie aussi ce qu'on n'a pas envie de. Les choses dont on n'a pas envie de se souvenir.
Et puis parfois les choses, même si c'est pas la bonne chose tout de suite, ça peut être un tremplin qui va t'amener à cette bonne chose après, parce que tu vas rencontrer quelqu'un, parce que tu être orienté sur telle ou telle chose, et puis ça va te faire rebondir, et puis au final c'est ça qui va t'amener la bonne direction, que des opportunités
et
finalement.
C'est exactement ce dont on... Ouais. Je sais pas si on était déjà en train d'en parler... Je sais pas si le micro était allumé à ce moment-là en fait, mais ce truc de dire... C'est ça le principe de ce qui est intéressant, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin.
C'est le chemin qu'on parcourt.
C'est ce que tu fais qui est intéressant, et c'est ce plaisir de regarder en arrière et de faire, mais c'est incroyable. Mm. Si quand tu regardes 5 ans en arrière dans ta vie, tu te dis pas, j'arrive pas à croire qu'il s'est passé tout ça en 5 ans, c'est que peut-être il faut que tu revoies tes critères de sélection sur les choses que tu fais dans ta vie.
Tu fais dans ta vie et le sens que tu lui donnes.
Après, sauf si tu t'éclates à fond, enfin, a priori, parce que le fait est que si, c'est même pas une question genre, oh, il faut s'amuser, la vie c'est facile, la vie c'est dur, donc c'est pas vrai, la vie c'est hyper dur, mais ça peut être passionnant et être dur à la fois, et a priori, si tu la vis pleinement, peu importe ce qui t'est arrivé, il te sera forcément arrivé une paire de trucs hyper négatifs,
et désagréable,
mais en fait, du coup, c'est moins désagréable. Sur le principe que tu sais que cette chose-là va créer comment ça s'appelle quand on lance un galet dans l'eau et ça crée des cercles.
Des ricochets.
Les ricochets, c'est le galet qui rebondit. Okay. Mais quand le galet tombe, et ça crée des... j'espère que vous avez l'image. Ça crée des espèces d'ondes. Oui. D'ondes. Et en fait, c'est cette idée-là, en fait. C'est cette idée d'onde qui s'étend et donc et qui crée des choses magiques.
Alors, donc, j'en reviens juste à... Donc, tu quittes ton métier libraire.
Donc, du coup, je...
C'est super intéressant.
J'ai toujours pas fini de
faire mon film.
Ben, en fait, j'ai passé de plus en plus de temps à faire des films pendant que je travaillais. Parce qu'en fait, il y a...
D'accord.
C'est pas seulement j'ai quitté mon métier libraire. C'est genre, j'ai passé 2 ans, pendant que je travaillais à plein temps, à faire de la formation continue, à dépenser de l'argent pour m'acheter du matériel et à créer. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de faire, c'était ça de plus en plus. Donc, j'ai aménagé mes horaires... au fur et à mesure du temps avec ma boss pour travailler moins, donc je passais de 35 heures à 28, j'avais 3 jours par semaine pour faire mes projets perso et 4 jours où je travaillais à la librairie. Et donc je pense que c'est important de préciser que c'est pas genre oh un jour je me suis réveillée j'ai dit je me casse, j'ai pas tout plaqué, ça a été un travail de 4
t'as
ans
t'as préparé les choses
j'ai pas pré- j'ai su
en fait ça s'est fait en il y a eu une forme de transition.
Avec le recul, je peux dire que j'ai fait tout ça, mais sur le coup, j'ai juste suivi cet instinct où je me suis dit, tu vois, toute la journée, tu penses au truc que tu vas filmer. Peut-être que tu devrais investir plus de temps là-dedans. Donc c'est toujours cet exercice d'écouter, de regarder ce que tu fais et de dire ce que je fais, j'aime ou j'aime pas. Si j'aime, je vais investir pour continuer à développer ça. Si j'aime pas, il faut que je change quelque chose.
D'accord. C'était pas à ce moment-là pour te dire je prépare les choses pour en aller partir et faire voilà, ce qu'on disait. En fait, c'était pas l'objectif, c'était pas le but que tu voulais atteindre, mais c'était de faire ce que tu avais envie de faire et ce que tu aimais faire à ce moment-là.
C'est m'écouter pour investir dans ce qui me faisait plaisir sans me dire tu fais tout ça parce que tu vas partir vivre à Los Angeles. Pas du tout. Mm-hmm. Jamais j'ai pensé ça. Jamais été un rêve de ma vie de me dire je vais partir. Je suis née à Reims. Enfin, je veux dire, aujourd'hui c'est peut-être un rêve pour les gens, mais moi à l'époque, Los Angeles, j'avais même pas la gueule que ça avait.
Mm-hmm. Tu voulais faire ce que t'aimais.
Et voilà, en fait, c'est par. En suivant ce seul focus de me dire c'est ça qui te plaît, continue à le faire, continue à le faire, les choses se sont amenées, m'ont amené à Los Angeles. Mais, et en fait, je pense que ça aussi, je pense que c'est un mythe. Il y a encore une fois quelques personnes qui naissent et se disent je veux être pâtissier, je veux faire de la musique. Et donc pour eux, c'est cool. Mais ça, c'est 3% de la population. Les trois quarts des gens, quand tu leur parles, ils te disent bah ouais, mais moi j'ai pas de passion et je sais pas ce que je veux faire. Ouais, en fait, tous, on est comme ça. Sauf que tu peux déjà... Intéresse-toi à toi-même, en fait. Regarde ce que tu fais de tes journées et regarde ce que tu aimes faire. Ne te dis pas, mais il faut que ça amène à quelque chose. Peu importe, en fait. Peu importe ce que... Parce que ça va t'amener à un truc que tu peux pas savoir ce vers quoi ça va t'amener. Okay. Moi, est-ce que j'aurais su que faire tout ça, ça m'amènerait à m'asseoir en face de toi et à parler dans ce micro? Est-ce que j'aurais su que tout ce que j'ai fait quand j'ai fait ces décisions, quand j'étais libraire, ça m'aurait amené à faire un TED? Non. Je pouvais pas dire ça.
Je pouvais pas imaginer ça.
Est-ce que je savais que ça allait vouloir dire que j'allais vivre en Turquie? Pas du tout. La Turquie n'existait pas dans ma tête. Donc
l'idée là que tu es en train de nous dire, c'est fais ce que tu as envie de faire, vis de ta passion, mais dans le sens vis là.
Ouais, la racine, c'est même pas fais ce que tu as envie de faire, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui disent mais je sais pas ce que j'ai envie de faire.
Okay.
La racine pour moi, c'est regarde ce que tu fais. C'est même pas fais ce que tu as envie de faire, c'est regarde ce que tu fais. Pendant une semaine, regarde ce que tu fais et regarde comment tu te sens par rapport à ce que tu fais.
Ce que tu fais naturellement,
ce que tu fais dans tes journées,
comment tu te fais plaisir. Okay.
Non,
juste... Non, ce que tu fais.
Voilà, il n'y a pas de plaisir ou pas plaisir, c'est regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais de tes journées et regarde comment tu te sens par rapport à ce que tu fais. Parce que c'est pas que la recherche du plaisir, hein, c'est aussi prendre conscience qu'il y a plein de choses qu'on fait et qui nous rendent mal, et on les fait. Pourquoi on les fait?
Alors quelqu'un qui dirait, bah justement, je sais pas quoi faire, moi je fais pas grand chose.
Non, mais tu fais des choses, tu rencontres des gens, tu vois tes parents ou pas, tu vois tes parents ou pas, tu vois tes frères et sœurs ou pas, tu vois tes amis ou pas, tu bois de l'alcool ou pas, tu fumes des joints ou pas,
tu regardes la télé
ou pas, tu manges trop ou pas, tu fais du sport ou pas. Déjà, sur le basique, hein, moi je parle juste, je te parle même pas de faire des activités extrascolaires, hein.
Okay.
Je te parle juste des choses qu'on fait tous, c'est-à-dire on passe tous un certain nombre d'heures à manger, à boire, à fumer ou pas, à dormir ou pas.
À vivre en fait.
Bah c'est ça, c'est juste les trucs pour te permettre de pas mourir en tant qu'être humain, donc juste les trucs de base.
Et alors une fois que tu as fait le bilan de qu'est-ce que je fais, tiens, je regarde sur une semaine, qu'est-ce que je fais?
Bah en fait moi je pense que l'idée c'est d'être plus dans un flow, ça veut dire, quand je dis flow ça veut dire d'être dans un mouvement. Bien sûr, tu peux te dire ok, pendant une semaine, moi ce que je trouve intéressant, parce qu'il y a toujours des moments où tu le fais pas, mais les moments où tu le fais pas c'est que c'est peut-être pas les moments qui sont importants pour toi. C'est regarde ce que tu fais et regarde comment tu te sens par rapport à ce que tu fais. Parce qu'en fait, tu peux pas vraiment te regarder faire quelque chose. Mais une fois que tu as fait quelque chose, tu as une sensation en général. Tu as une sensation dans ton ventre, dans tes tripes. Et c'est quoi cette sensation? Si tu te rends compte que tu as une sensation un peu de poisse, que tu as mal au bide, que tu as des cailloux, que tu te sens
c'est
pas bien.
C'est désagréable.
Et que du coup, pour arrêter cette sensation, tu fais autre chose. Parce que tu en fais forcément quelque chose pour arrêter cette sensation. Regarde ça et après, sois conscient du fait qu'il n'y a que toi, en fait, qui peut décider de ce que tu vas faire par rapport à cette information. Personne va venir pouvoir te prendre la main et te dire « Ah, tu te sens pas bien, bah attends, je vais vivre ta vie à ta place. » Non. Si tu ne fais rien et que tu sais que tu ne fais rien et que tu as décidé que c'était ok de ne rien faire sur une situation, ok.
C'est ok.
Mais si tu mens, si tu te mens à toi-même,
ouais.
Et que tu dis « Ouais, non, mais c'est pas ma faute, c'est la vie », ben en fait, pour moi, un grand moment, ça a été de comprendre que la vie, c'est difficile pour tout le monde. Et j'avais des amis qui ne se plaignaient jamais et des amis qui se plaignaient tout le temps. Et moi, je faisais un peu partie de cette catégorie-là. En fait, j'avais toujours l'impression que... Je ne sais pas si je me plaignais tout le temps, mais d'avoir cette impression que ça n'arrive qu'à moi, ça n'arrive pas aux autres, que ton frigo lâche,
chance,
tu sais, les trucs. Ouais. Mais tu sais, on ne parle pas forcément de... Je ne sais pas si on parle de... En fait, les échelles, gros ou pas gros, c'est propre à chaque personne, mais c'est juste ces choses qui font que pour toi, c'est un obstacle. Ce truc, pour toi, c'est une montagne. Et pourquoi pour la personne à côté de toi, c'est pas une montagne? Et pendant longtemps, moi, j'ai cru que c'était parce que ça ne leur arrivait pas. Je me disais, moi ça m'arrive, mais eux ça leur arrive pas. Et c'est pour ça que eux ils arrivent à faire ça et que moi j'y arrive pas.
Et que moi j'y arrive pas parce que moi je rencontre des difficultés.
Que eux ne rencontrent pas. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas ça. C'était quand eux ils décidaient de mettre leur. Ils décidaient de donner de la puissance à autre chose. Moi je donnais de l'importance à cet événement là. Et alors que eux ils te racontaient. Je sais pas, moi je prends un exemple concret, ça sera peut-être plus parlant, mais. Et donc, toujours sur cette série que j'ai tournée le mois dernier, là, je travaille avec un chef opérateur et on a une réunion le 1er novembre. Donc, jour férié, tout le monde est en congé et nous on a une réunion non payée le 1er novembre, de 6 heures. Donc, déjà, c'est. Bon, voilà, déjà, juste pour dire, c'est déjà un état d'esprit. Il faut aller travailler gratuitement, mais on s'en fout parce qu'on est content, parce que c'est un projet qui nous plaît et que finalement on a choisi de faire ces métiers-là. Donc on y va, on est content. Et le mec arrive, il s'est fait voler, il s'est pas fait voler son scooter, des gens ont essayé de voler son scooter, donc ils ont cassé son scooter parce qu'ils n'ont pas réussi à enlever l'antivol, et il a dû l'amener au garage. Déjà ça, sur le principe, c'est quelque chose qui, pour certaines personnes, leur donnerait de la matière à être désagréable en réunion, à être stressé, à justifier des comportements abusifs dans leur vocabulaire et leur façon de parler. Et lui, il était d'un calme absolument incroyable. Donc déjà, je me dis, waouh, c'est chouette. Moi, je sais pas si j'aurais cette grâce si on essayait de me voler mon scooter. Surtout qu'il me dit, et j'ai pas d'assurance, enfin, je suis pas assurée en cas de vol, un truc comme ça.
D'accord.
Donc je suis contente qu'ils aient pas réussi à le voler. On tournait 15 jours après. Et entre-temps, il s'est fait voler son scooter. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de garage, donc il l'a remis dans la rue, il s'est fait voler son scooter. Et il n'y a aucun moment où j'aurais su qu'il s'était fait voler son scooter. Et il l'a dit parce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé comment va ton scooter, et il m'a dit, bah, je me le suis fait voler. Et ça a été tout, en fait.
Il n'est pas arrivé un matin en disant, je me suis fait voler mon scooter.
Non. Okay. Et il me dit, bah maintenant je suis en vélo. Et c'est tout, il n'y avait aucun sujet en fait. C'était pas un propos. C'était pas une. C'était pas. On n'en a pas parlé.
D'accord.
On n'en a pas fait des gorges chaudes. Il n'a pas passé tous les déjeuners de tournage à raconter à tout le monde comment il s'était fait voler son scooter. Il n'a pas utilisé ça comme raison pour expliquer qu'il était stressé parce que c'est probablement un stress énorme économiquement.
Et comment il a fait, tu penses, alors, pour réussir à faire ça?
Et en l'occurrence, c'est une personne qui est aussi dans un développement personnel hyper intéressant. Enfin, je dis pas par rapport à moi, mais j'en connais d'autres. Je peux pas parler à sa place, en fait. C'est compliqué pour moi de dire comment il a fait. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que moi, ce que ça a créé en moi, ça fait partie de ces personnes que je traque. C'est mon travail de faire attention à ce que les gens font. Ça fait partie de ces gens que je remarque qui existent et qu'on ne voit pas parce qu'ils ne portent pas comme un badge d'honneur le fait d'être dans ces démarches-là. Ils vivent leur vie et ils font des choix qui rendent leur vie plus apaisante. Tout ce qu'il a fait, alors c'est pas tout ce qu'il a fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a forcément un travail fort en profondeur.
Oui, bien sûr.
Mais finalement, l'action qu'il a faite, ça a été de ne pas donner de la puissance à cet événement dans sa vie de façon négative. Alors qu'on, nous, on est tous habitués à ça.
À faire ça, bien sûr.
À chercher l'attention des autres par la pitié, par la, le fait qu'on est des victimes, que la vie c'est dur. On a l'impression que si on ne peut pas recevoir de l'attention parce qu'on fait des choses superbes, du coup il faut compenser et attirer la...
l'attention.
La... Il faut attirer, en fait c'est ça, il faut attirer l'attention. Ben, mais peut-être pas en fait. Si, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de, d'essayer d'attirer l'attention, on vivait juste notre vie ?
Simplement, juste.
Ouais,
ça.
Mais c'est dur, hein. C'est facile à dire, mais c'est très difficile, puisqu'on n'est pas du tout dans ces sociétés-là. Et mais quand on est dans ce chemin-là, c'est vachement plus amusant, par contre.
Bien sûr.
C'est vachement plus sympa. Et donc, voilà, moi, ça a été ce truc de me dire, je vais pas... Donc c'est ça qui c'est une conscientisation complète de choses instinctives que j'ai faites au fil des années et qui ont fait que un moment quand je travaillais au Bon Marché, j'avais aussi mon corps qui me parlait énormément parce qu'on travaillait en sous-sol à l'époque et j'avais des migraines du moment où je mettais mon pied au Bon Marché, j'avais une migraine qui ne s'arrêtait que quand j'en ressortais.
D'accord.
Donc les plafonds étaient bas, c'était comme c'était de la lumière artificielle toute la journée, mais c'était pas que ça. Et en fait, il y a un moment aussi où je ne me suis pas dit « je vais aller chez le médecin, je vais prendre des médicaments, je vais me mettre en antidépresseur, nanana ». Je me suis dit « en fait, mon corps me dit un truc ».
Il te transmet un message.
Clairement, je ne suis pas vivante quand je suis en train de faire ça. Et je suis vachement vivante quand je fais l'autre truc. Et en fait, après, il y avait... Et en fait, du coup, il y a eu un moment où je me suis dit « je vais partir aux États-Unis faire des films. Mmh. Voilà.
Et alors, comment ça se passe concrètement quand on décide de partir comme ça ?
Après, moi, je suis extrêmement chanceuse parce que je suis dans une famille aimante et qui m'a soutenue.
Donc, tout le monde t'a soutenue ?
Ouais. J'ai un énorme facteur chance. Hein. Je veux dire, je suis née dans une bonne famille. Quand je dis bonne famille, c'est-à-dire que je suis née dans une famille aimante, ce qui est déjà énorme. Mmh. Ils m'ont juste dit, cool. Mes parents, je sais pas ce qu'ils m'ont dit, mais j'étais à côté de mon frère au moment où j'ai eu ce flash. Ça a été l'un des rares moments de ma vie, peut-être le seul moment de ma vie, en tout cas celui dont je me souviens, où j'ai vraiment eu ce flash, où je me suis dit, ouais, en fait, je vais partir vivre aux États-Unis, faire des films, parce que j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis. J'aime pas le froid. Enfin, j'aimais pas le froid. Donc, je me suis dit, je vais aller sur la côte ouest. C'était vraiment, en plus, c'était des calculs non calculés. Enfin, je veux dire, mais c'est ça. C'est qu'il faut pas. Après coup, je peux dire que tout était prévu, mais rien n'était prévu. Je savais même pas ce que ça voulait dire.
Tu t'es juste écouté aussi là, en fait, finalement. Oui. Mais moi, j'aime pas le froid, donc.
Mais c'est ça.
M'écoute, quoi.
Oui. Et en fait, je voulais aller à San Francisco. Pourquoi est-ce que je voulais aller à San Francisco ? Parce que j'avais lu des livres d'Amistad Maupin, donc je connaissais San Francisco par la littérature. Sauf que c'était pas possible en tant qu'étudiant étranger d'aller à San Francisco, parce qu'ils n'avaient pas d'école de cinéma qui donnait des visas aux étudiants étrangers. Moi, j'ai fait un DUT, donc j'avais pas le niveau licence et j'avais pas l'argent, de toute façon, pour faire des vrais cours. Donc, j'ai trouvé, et encore une fois, à l'époque, si je pouvais vous montrer les pages des sites internet de l'époque, enfin, c'était quand même incroyable. et en même temps, si internet n'existait pas, j'aurais pas pu le faire. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait eu 5 ans de plus que moi, au même... 5 ans avant, n'aurait pas pu faire ce que j'ai fait. Donc, on est tous en retard un peu sur la technologie, mais c'est comme ça. Et en fait, je me suis retrouvée à Los Angeles, pas du tout parce que je me suis dit... C'est pour dire que c'était pas logique. Pas du tout parce que je me suis dit, Los Angeles, c'est la ville des films aux États-Unis, c'est New York ou Los Angeles. Je me suis pas du tout dit ça, moi. Je me suis dit, je vais aller à San Francisco, parce que j'ai envie de soleil et que San Francisco, ça a l'air bien et je sais qu'il y a un pont. Et en fait, je me suis retrouvée à Los Angeles parce que eux, ils avaient des cours du soir qui coûtaient beaucoup moins cher, qui coûtaient beaucoup plus cher qu'en France, parce qu'en France, je sais pas combien c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était genre 400 euros l'année, mais qui donnaient aux étudiants étrangers la possibilité d'avoir un visa, donc de rester légalement, et qui leur donnaient à la fin de la formation un an de visa de travail. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Los Angeles. Je suis pas arrivée à Los Angeles parce que je me suis dit je vais aller à Hollywood, conquérir Hollywood.
Okay.
Pas du tout. Je savais même pas, je sais pas ce que je pensais en fait. Mais je me suis dit il faut que je change, il faut que je parte. Ça me coûtait aussi cher de faire une école privée de cinéma à Paris, puisque je suis pas parisienne. Louer un appart
Oui, tout à fait.
Et payer une école privée me coûtait aussi cher que d'aller aux États-Unis. Donc je me suis dit, bah, je vais pas aller, je sais même pas si ça me coûtait pas moins cher, je vais pas aller à Paris faire une école privée de cinéma dont on sait, et 10 ans après c'est encore le cas, que ça ne changera rien, ça ne m'apportera pas forcément de travail. Donc autant aller aux États-Unis parce que c'est mon rêve et parce que, je sais pas, les Américains m'ont toujours fait un petit peu de l'œil. J'aime bien leur état d'esprit. J'adhère vachement à l'état d'esprit américain qui est proactif. Bon, pas en politique, mais...
c'est un autre sujet.
Mais... Ouais, voilà, mais le en tout cas, l'état d'esprit...
Le dynamisme.
Ouais, c'est ça, okay. Le dynamisme.
Okay. Du coup, t'es resté combien de temps aux États-Unis ?
4 ans.
4 ans. Ouais. Ensuite, tu décides de revenir ?
Je décide pas de revenir, mais le visa s'est terminé. D'accord. J'avais pas pu le renouveler justement à cause de la crise économique qui a fait que c'est devenu extrêmement difficile de renouveler des visas d'artistes. Donc ça a été une conséquence que je maîtrisais pas. Mmh. Et je reviens en France très brièvement, quelques mois, et je repars après en Turquie. Mmh.
Si tu devais résumer de tout ton parcours, en tout cas toute ta vie, une leçon de vie ou une philosophie ou vraiment un message fort que tu veux porter, ce serait quoi ?
J'en ai trop. ouais, parce que c'est, je pense pas que...
Ou en tout cas, une idée phare que tu voudrais partager avec les gens qui vont nous écouter.
Bah, moi, c'est la phrase de mon TED. Écoute ton intuition, lance-toi et recommence.
Écoute ton intuition.
Lance-toi et recommence. C'est le truc de écoute ton intuition, c'est ce que je disais tout à l'heure, de regarde ce que tu fais et comment ça te fait, comment tu te sens par rapport à ça. Ça, c'est écouter son intuition. Écouter son intuition, c'est pas seulement ouh, j'ai l'instinct de faire ça. C'est ton intuition, c'est cette petite voix dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête, qui de temps en temps te chatouille et qu'on ignore trop souvent. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que tu continues à voir ce pote ? Chaque fois que tu le vois, tu te sens mal. Une fois que tu as fini de parler avec cette personne, tu rentres chez toi et t'es vidé de ton énergie. Mmh. Pourquoi tu continues à voir cette personne ? Écoute ton intuition est en train de te dire cette personne est toxique.
Elle est toxique pour toi, ouais.
Et donc, une fois que tu as fait ça, lance-toi. Alors après, là, j'ai pris l'exemple de la personne, mais ça peut aussi... Écoute ton intuition de... T'as envie de faire du scrapbooking et tout le monde pense que le scrapbooking, c'est de la merde pour les femmes au foyer qui s'ennuient. Mais fais-le ! Si c'est ça ce que t'as envie de faire, fais-le. Et en fait, en faisant du scrapbooking, tu vas découvrir un artiste japonais qui fait je sais pas quoi. Et puis du coup...
Et qui va t'ouvrir sur autre chose.
Et recommence. Ne te dis pas juste, j'ai fait du scrapbooking, alors je comprends pas comment ça se fait que j'ai pas 12 000 followers sur Instagram parce que je publie mes photos de scrapbooking sur Instagram avec les bons hashtags. On s'en fout. Recommence. Fais ça tout le temps pour tout dans ta vie. Et au moins, bah, tu auras une vie intéressante.
T'auras vécu ta vie.
Voilà.
C'est ça ?
Au moins, ouais, c'est ça. Au moins, t'auras vécu.
Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur, des fois, dans le fait de suivre ton intuition ? Parce que j'imagine que c'est ce que tu dis là pour les auditeurs, c'est ta façon de gérer ta vie. Est-ce qu'il t'arrive, des fois, d'avoir peur ?
Mais tout le temps. Moi, je suis hyper trouillarde.
T'as peur de quoi, bien souvent ?
Bah, de tout. Bah, par exemple, avant, j'étais phobique du téléphone. D'accord. Et à l'époque où on n'avait pas des téléphones portables, et c'était hyper chiant d'appeler les gens parce que tu savais pas si t'allais tomber sur le père, sur la mère, sur le frère, sur la sœur. C'était hyper angoissant pour moi d'appeler les gens au téléphone. Et quand j'étais aux États-Unis et que j'ai eu l'opportunité d'avoir ce travail, bah c'était quoi ? C'était répondre au téléphone en anglais. En anglais, j'ai un accent français et surtout c'est hyper compliqué de comprendre au téléphone une langue étrangère. Et c'est encore plus compliqué quand tu réalises que 90% des gens qui t'appellent, ce sont des étrangers qui parlent en anglais.
Donc avec leur propre accent, voilà. Eux-mêmes.
Okay. Bah, ça m'a soignée. Okay. Je suis encore ça reste pas mon moyen de communication préféré. J'appelle très peu les gens, mais je suis capable de le faire. Je t'ai appelée.
Ouais, bien sûr.
Quand tu m'as appelée, je t'ai rappelée. Mais il y a 15 ans, c'était pas possible ça.
Okay. Comment t'as fait pour travailler par exemple ce point-là, ou en tout cas travailler cette peur ? Parce que c'est un exemple, mais.
Là, je parle des choses parce qu'on en parle, mais je suis pas en train de me dire je vais travailler mon problème sur le fait d'avoir peur du téléphone.
Ok.
J'ai besoin de gagner de l'argent. Je trouve un travail. Il se trouve que ce travail demande que je réponde au téléphone et je l'ai fait.
Oui, mais alors comment tu as fait pour ne pas être bloquée ? Parce que t'aurais pu avoir le réflexe inverse de te dire oui, sauf que là, moi, je suis d'accord, j'ai besoin de gagner de l'argent, j'ai trouvé ce travail. Mais j'ai peur du téléphone, donc je me bloque et je n'y vais pas, je le fais pas.
Bah, c'est là encore où moi je crois vachement aux petits pas. Je me suis pas... En fait, déjà je me suis dit ça va pas passer. Enfin, je suis étrangère et il me demande. Ça fait 3 mois que je suis aux États-Unis. J'étais pas du tout bilingue en arrivant aux États-Unis. J'avais pas un mauvais niveau d'anglais, mais j'étais pas. J'étais loin d'être bilingue. Il y a plein de vocabulaire que je connaissais pas, etc. Et forcément, je vais me faire dégager. En fait, au début, je pense que j'ai juste ignoré. Le truc, c'est que c'est bien de ne pas essayer de tout savoir. C'est ce qui fait toute la force des gens qui sont jeunes. C'est quoi la différence entre toi, moi et un mec de 19 ans ? C'est que le mec de 19 ans, il en sait moins que nous. Du coup, il a moins peur que nous. Parce qu'il comprend pas, en fait. Il comprend pas ce que ça veut dire de se lancer en tant que photographe freelance. Il sait pas encore ce que ça veut dire de gérer les factures et les paliers administratifs. Et donc il le fait. Et lui, il apprend en faisant. Il se prend des tartes, des râteaux et des galettes. Mais il le fait.
Ouais. Alors tu sais, c'est marrant par rapport à ça. Moi, je prends souvent l'exemple du bébé qui apprend à marcher. L'enfant qui apprend à marcher. Il tombe. Mais il sait pas que... il pourrait se casser une jambe, qu'il pourrait se faire mal. Bon, à un moment donné, il le comprend s'il se prend plusieurs chutes. Mais en tout cas, il a moins de peur que nous, on peut avoir aujourd'hui.
Complètement.
Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il se relève et puis il recommence. Et puis, alors, il retombe, mais il se relève. Et globalement, aujourd'hui, sauf à avoir une problématique physique, mais on sait tous marcher.
Bah, c'est ça.
Mais parce qu'on n'avait pas eu peur à ce moment-là de se relever et de refaire.
Ouais, et bah, c'est... Il a suivi son intuition, il a vu qu'il y avait des gens qui marchaient, il s'est dit je vais marcher. Il s'est lancé, il s'est vautré à peu près 50 000 fois, mais il a toujours recommencé. Ouais. C'est exactement le truc du bébé, c'est ça. C'est écoute ton intuition. Mon intuition, c'est que je suis capable de me déplacer au lieu d'attendre que quelqu'un vienne me porter de point A à point B. Ok, fais-le. Bah ça marche pas du tout en fait. Bah recommence. Mais le bébé, il met en place.
Et fais-le peut-être différemment. Ouais. Peut-être que tu marchais sur la pointe des pieds et puis tu mets les deux pieds.
De toute façon, tu fais jamais deux fois la même chose. Tu peux pas faire deux fois la même chose. Même si tu fais deux fois la même chose, au bout d'un moment, tu as compris, tu fais plus la même chose. C'est le processus d'apprentissage qui est propre à chacun. Mais si tu es dans cette dynamique d'apprendre de tes erreurs et de recommencer, tu peux pas. Au bout d'un moment, ça va aboutir à quelque chose.
Donc, écoute ton intuition, fais-le et recommence. Lance-toi et recommence. Ok. Est-ce que tu aurais une autre source d'inspiration qui pourrait être un livre, une citation, un film ou quelque chose qui pour toi était significatif et qui t'a particulièrement inspiré ? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais...
Il y en a mille. D'ailleurs, à partir du 1er janvier, pendant 31 jours, je ne sais plus combien de jours il y a en janvier, je fais un calendrier de l'après.
D'accord.
Parce que tout le monde fait des calendriers de l'avant. moi, je fais un calendrier de l'après sur mes stories sur Instagram.
D'accord.
Et tout le principe du calendrier, que je n'ai pas encore fait, hein, donc je ne sais pas si ça va marcher, mais toutes mes stories, une fois par jour, je vais partager justement une citation, un bouquin, un TED Talk, une vidéo, enfin des trucs qui, moi, m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui et qui, je pense, ont amélioré ma qualité de vie en tant qu'être humain.
Génial.
Et voilà, tout est en anglais.
Ok.
Enfin, toutes les références sont en anglais parce que c'est vrai que je trouve qu'ils sont en avance sur plein de choses, et même quand c'est pas en anglais, c'est traduit en anglais. Enfin, ils sont même en avance sur le partage d'informations des autres nations, en fait. Donc tout est en anglais. J'ai fait un petit quiz des gens qui me suivent, et il y en a quasiment tout le monde m'a dit je comprends l'anglais. Donc même si ça serait mieux que ça soit en français parfois, mais j'ai aussi...
Mais si vraiment on veut comprendre, on y arrivera. Et
ouais,
on arrivera.
Ouais. Mais, et puis bah, peut-être que c'est le travail que tu dois faire.
Ouais,
enfin, si c'est pas pour toi, regarde pas. Et puis, si t'es curieux et que t'as envie de le savoir, peut-être que c'est ton opportunité d'avancer sur ce sujet-là. Parce que l'anglais, c'est quand même l'espéranto actuel. C'est la langue que toutes les nations peuvent utiliser pour communiquer. Et t'as accès à une masse d'informations en anglais. C'est compliqué de se priver de ça.
De se priver de ça aujourd'hui.
Donc
ces références-là, on va pouvoir les
retrouver. Voilà, si tu veux une citation, un livre, etc., tu vas sur mon Instagram au mois de janvier. Tous les jours, je vais partager un truc en story. Je le mettrai probablement en highlight en dessous pour que ça reste.
D'accord.
Et c'est le calendrier de l'après.
Le calendrier de l'après.
Ouais, APERIS.
Alors justement, j'avais aussi une autre petite question. On va bientôt finir, mais il m'en reste une. Ton compte Insta, il est sous le nom Mentorless, c'est ça ?
Ouais.
Ça vient d'où ce nom-là ? Tu peux nous l'expliquer ?
Bah en fait, à la base, Mentorless, c'est mon site. J'ai un blog qui s'appelle Mentorless, qui est sur le... À la base, c'était sur le filmmaking, et maintenant, c'est aussi sur le storytelling, que j'ai créé quand je vivais aux États-Unis, donc il est en anglais. Et donc j'ai repris le nom Mentorless pour mon Instagram et pour mon Twitter, etc. Mais c'est un nom qui a été que j'avais créé un jour où j'étais énervée. parce que j'ai deux frères, mais j'ai un de mes frères que j'adore, qui n'arrêtait pas d'avoir des mentors.
D'accord.
Partout où il allait, il a vraiment cette personnalité qui fait que les gens... Enfin, je dis les gens, en fait, je vais genrer, hein, c'est une histoire de genre. C'est-à-dire que j'ai un frère qui avait plein de mentors hommes, qui lui ont ouvert plein de portes, mais ça, je suis pas en train de dire que sa vie a été facile ou qu'il a pas de mérite, hein. Mais je dis juste qu'il avait plein d'hommes qui lui disaient « je me reconnais en toi » et qui lui...
Ça lui ouvrait des portes.
Voilà. Il y a un jour où ça a été l'histoire de trop, on se parlait, parce qu'on s'entend hyper bien, hein, on est hyper proches, il n'y a aucun souci. Et il me racontait encore ce truc de mentor qui lui avait permis d'avoir accès à ce truc-là, parce que c'est ça, finalement, le mentoring, c'est offrir à quelqu'un de plus jeune de gagner des années de vie. Mmh. Dans la course dans laquelle on est, autant te dire que c'est plus précieux que jamais. Et en fait, le mentoring, souvent, c'est des hommes, puisque c'est jusqu'à la semaine dernière, c'était quand même que des hommes qui étaient en situation de pouvoir, qui regardent des hommes plus jeunes et qui disent « je me reconnais en toi, Bobby », et qui leur donnent accès à plein de choses. Et quand t'es une femme, bah, ça n'arrive pas, parce que forcément, un homme beaucoup plus vieux qui te regarde une femme beaucoup plus jeune, et ben quasiment souvent quand même, très souvent, il y a un problème sexuel qui arrive et qu'il se reconnaît pas en toi. Non, il se reconnaît pas en toi. Il y a peu d'hommes qui ont cette extraction cérébrale qui leur permettent de te regarder comme un être humain et pas comme une jeune femme jolie, plaisante. Donc ils peuvent avoir envie d'être à côté de toi, mais ils se reconnaissent pas en toi, c'est pas possible. Et donc mon frère avait ça, et moi un jour je me suis dit, mais moi j'ai jamais eu de mentor. Déjà j'ai jamais eu de femme, je n'ai jamais rencontré de femme qui faisait ce que je voulais faire. J'avais jamais rencontré de femme réalisatrice, j'avais jamais rencontré de femme scénariste, j'avais jamais rencontré de femme en situation de pouvoir dans ces métiers-là. Et j'avais jamais eu de femme qui m'avait dit je vais t'ouvrir les clés, les portes de ce que j'ai appris. Et j'avais jamais rencontré d'homme qui avait eu cette attitude envers moi. Et les rares fois où il y avait eu des hommes un peu plus vieux, j'avais toujours eu cette limite du fait que je reste une jeune femme de 20 ans, de 21 ans, avec de l'ambition, avec de la curiosité, avec de l'appétit, mais je reste une femme. Et donc il y a toujours des choses que tu pourras pas faire quand t'es dans une mixité de genre et que la hiérarchie fait que l'homme a plus de pouvoir que toi.
D'accord.
Je dis pas que d'ailleurs il n'y a pas d'abus dans l'autre sens non plus, hein, mais comme il y a moins de femmes au pouvoir, je pense que c'est un problème qui s'est moins posé pour l'instant.
Et c'est de là donc qu'est venu ce mot.
Voilà. Et en fait, moi je dis, j'ai pas de mentor. Et comme j'ai pas de mentor, c'est moi mon mentor. En fait, c'est pas moi mon mentor, parce que c'est pas vrai. Mais c'est mon mentor, c'est d'apprendre de tout ce qui existe autour de moi. Le monde est mon mentor, mais j'ai pas une personne qui m'a permis. Personne ne m'a facilité. J'ai eu plein de chance dans la vie, mais j'ai pas une personne qui m'a rendu la vie facile. J'ai pas une personne qui m'a transmis tout ce que j'ai appris. Je l'ai appris parce que j'ai été proactive. Et j'ai cherché les informations. Okay. Et donc, le principe de mon site, c'était je fais l'effort de faire de la formation continue tous les jours dans ma vie pour continuer à grandir en tant qu'être humain. Et ce qui me semble important, je le partage avec vous gratuitement. D'accord. Sur mon site. Et mon site, c'est pour les gens qui n'ont pas accès au mentor.
Okay.
Même si techniquement, les gens ne sont pas en train de se dire « Ouh, j'ai un mentor, je ne vais pas regarder ton site. »
Non,
mais
bien sûr.
C'était l'idée, quoi.
C'était l'idée, en tout cas, c'est pourquoi tu l'as fait.
Et puis après, c'est resté parce qu'une fois que tu choisis ton nom...
Tu le gardes.
Ouais, et puis en fait, j'aime bien cette idée.
Il convient bien aujourd'hui.
Ouais, il me convient bien parce que je pense qu'il y a encore plein de gens qui vivent en province, qui vivent en campagne, qui vivent dans des pays en voie de développement, qui sont des femmes, des petites filles et qui n'ont pas accès à ça, en fait, à ce luxe ultime d'être pris sous l'aile de quelqu'un ou d'être à Paris ou d'être à New York ou d'être à Londres. Et moi, j'aime bien l'idée de ce que j'aime le plus dans Internet, c'est le fait que ça, pour l'instant en tout cas, ça remet les choses à niveau. Alors,
parce
oui,
que tout le monde a l'accès.
Ouais.
Un même accès.
Il y a, en tout cas, t'as pas le même accès. Et t'auras des choses qui seront jamais à niveau, mais au moins, si t'es pauvre et t'es une meuf et tu vis en Inde, bon, il faut encore que t'aies accès à Internet. Donc, je sais pas dans quelle mesure ça c'est possible. Pouvoir voir des choses en qualité. Mais au moins, en tout cas, t'as juste besoin d'une chose, c'est la curiosité. Si t'as accès à Internet et que t'as la curiosité, t'es déjà moins loin que si t'as juste accès à Internet et que t'attends que les choses arrivent.
Arrivent, bien sûr. Pour ceux qui veulent te suivre, donc c'est quoi ton actualité à venir? Est-ce que tu as des projets dont tu peux parler ou pas sur 2019? Ou est-ce qu'on peut te retrouver, te croiser, te voir, t'entendre, t'écouter, je sais pas.
Pour me suivre, et c'est Mentorless, donc Mentorless sur Instagram.
Oui.
Je l'ai aussi sur Facebook et sur Twitter, mais en fait le réseau social que j'utilise maintenant, c'est Instagram.
D'accord.
Donc c'est là où je communique sur les stories un peu quotidiennement, et voilà, si on veut me parler, c'est là.
D'accord.
J'ai mon site nathaliesejean.com où les gens peuvent trouver, enfin sur Instagram aussi on peut trouver mon email et me contacter plus personnellement si c'est le propos. En actualité, je vais avoir mon TED qui va sortir en janvier ou en février. J'ai réalisé une série, une Golden Stories pour Golden Moustache qui devrait sortir en avril sur Pickle TV.
D'accord.
Je suis en train de j'ai réalisé un court métrage en juin que j'envoie en ce moment au festival, au circuit des festivals de films.
D'accord.
Et en fait, probablement qu'en juin prochain, donc il sera en ligne pour que les gens le voient gratuitement.
D'accord.
Pour l'instant, je peux pas le mettre en ligne parce que les festivals n'acceptent pas que le film soit déjà en ligne pour qu'il puisse être en compétition.
D'accord.
Donc quand on aura fini de l'envoyer, je le mettrai quand même en ligne gratuitement pour que tout le monde puisse le voir.
D'accord.
C'est un film qui a été entre autres fait grâce au soutien de plein de gens sur une campagne participative, donc c'est sympa. Et puis après, là je suis en développement de plein de projets. En fait, j'ai un des projets que j'ai, c'est que je vends un pins faiseuse. Et que j'ai créé, inspiré justement par la convergence de plein de choses, dont le TED et dont la rencontre de binômes créatifs que j'ai en ce moment avec qui ça marche bien. Et donc ce pin-là, probablement que je vais le mettre en vente avec un de mes binômes créatifs qui s'appelle Marion Séclin. On est en train de développer des projets de films.
D'accord.
Et en fait, on s'est dit, on va vendre ce pins. Et l'argent qu'on gagnera avec ce pins, on l'utilisera pour faire des films.
D'accord.
Comme ça coûte toujours cher de faire des films, même un petit court-métrage, ça coûte quand même de quelques centaines à quelques milliers d'euros. On s'est dit, on va au début de l'année, on le mettra en vente en ligne, et si jamais on le vend, on utilisera cet argent pour faire un film.
D'accord. Et ce pin-là aujourd'hui, il est alors il a une signification particulière, il me semble, pour toi.
Ouais,
il veut dire quoi? Le mot faiseuse,
c'est une affirmation, ouais. C'est une affirmation pour dire, c'est pour les gens qui font. C'est pas que pour les... Alors, c'est marrant, à la base, évidemment, c'était dans l'idée, c'était encore un truc qui m'avait énervé. alors, je trouve que c'est un bon moteur quand on est énervé de créer quelque chose au lieu de se plaindre. C'était c'est une designeuse américaine qui avait dit ça. C'était un truc du style, s'il y a quelque chose qui te plaît pas dans la vie, si tu te plains d'un truc, fais quelque chose ou tais-toi.
Ouais.
Et ça, c'est une vraie philosophie que j'ai maintenant, c'est-à-dire que si je me plains plus d'une fois d'un truc, soit je me tais, soit je fais quelque chose. Mais j'ai pas le droit de continuer à me plaindre juste
sans
pour me
faire.
Plaindre.
Ok. Et là, du coup, c'était suite à quelle situation?
C'est mon autre frère. Mais c'est bien, c'est pour ça que ça sert d'être avec des gens. Non, mais c'est mon autre frère, c'est pareil, c'était encore un truc de genre. L'histoire est un peu longue, donc ça sert à rien que je la raconte, mais en gros, il me racontait quelque chose et je me suis rendu compte que nous, les femmes, on n'était pas. On était en général des profils très actifs. Une femme, de manière générale, est très active, puisque quoi qu'il arrive, au minima, elle s'occupe de son foyer et de sa famille. Et même si elle n'a pas d'enfants, elle va probablement s'occuper de ses parents. Voilà, donc de manière générale, les femmes font beaucoup. Sont beaucoup dans l'action, beaucoup plus que ce dont on nous représente comme des êtres passifs, alors qu'en fait, de base, les cafés, des cafés où les hommes passent leur journée à fumer des cigarettes et à boire de l'alcool, ça existe dans plein de pays. Ça n'existe pas pour les femmes, par exemple. Il n'y a pas de café de femmes où on se tourne les pouces en attendant que quelqu'un nous fasse à manger. Non. Nous, les femmes, on fait. Mais en fait, on est nuls pour prendre conscience de ça et l'utiliser comme empowerment. Et on est nuls pour céder. On est nuls. Je veux dire, c'est mon avis, mais je trouve qu'entre femmes, on fait nos trucs comme des causettes, et puis après, on se booste pas les unes les autres. Alors que les mecs, dès qu'ils font un truc, ils font un club.
Ouais.
Ils se font des bagues, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ils se font des cartes, et puis ils font ça bien, et puis ils organisent du coup une grosse bouffe, et puis ils mettent du budget. Et ils font des activités, et je me disais, mais nous, on est vraiment nuls, quoi. Et donc, à la base, j'avais envoyé un message à mon groupe de faiseuses pour leur dire, je change le nom de ce groupe. À partir de maintenant, il s'appellera Les Faiseuses, et parce que nous, on fait, et c'est notre mot d'ordre, donc on va pas s'appeler autrement. de ça est venu le fait que je leur ai dit je vais nous faire des pins, parce qu'on va faire, on va être intelligente, on va faire et on va montrer. On va montrer qu'on fait et on va en être fiers et ça va être notre identité. Quand les gens ils vont penser à nous, ils vont penser ça c'est des meufs qui font
des choses.
Et après en fait ce qui est intéressant c'est que après je me suis rendu compte que faiseuse c'est pas un mot qui existe. Donc
si tu cherches dans le dictionnaire tu
je pense pas. Je pense pas parce que quand les gens le voient ils font c'est faiseuse, c'est faiseuse, ils savent pas comment ça se prononce. Ils savent pas comment ça se prononce, c'est qu'à mon avis c'est pas dans le dictionnaire. Et donc moi je l'ai appelée faiseuse parce que ça partait de moi, mais je me suis dit c'est pas un mot genré. Je voudrais pas que les gens, en fait aujourd'hui je me dis il y a un homme pour l'instant qui est venu acheter le badge et qui est un faiseur, mais qui est une faiseuse. En fait, voilà, je me dis, puisqu'on est dans cette problématique de l'écriture inclusive, mais qu'il y a plein de mots qu'on pourra jamais vraiment prononcer de façon inclusive, parce que c'est inclusif, je sais pas, une façon inclusive, parce que c'est comme ça que la langue française est faite. Pourquoi est-ce qu'on crée pas des mots féminins pour être inclusif aussi et dire, oui, moi, Thierry, je suis une faiseuse. Je suis une faiseuse. Je fais plein de trucs. Et j'ai un homme, pour l'instant, qui l'a fait. Et j'étais très contente. Et j'ai plein d'hommes qui m'ont fait « Oh non, mais quand même, je me suis
ramenée. » Vous n'avez pas la version faiseur ?
Non, ils ne l'ont pas demandé. Voilà. Et en fait, je vends ce pins en ce moment à l'Hyper Noël. Mais je pense que quand le podcast passera, sera fini. Et le slogan c'est on ne naît pas faiseuse, on le devient.
D'accord.
Qui reprend la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Mm-hmm. Et c'est un état d'esprit.
D'accord.
Il n'y a jamais d'âge pour devenir une faiseuse.
D'accord.
C'est pas tu peux juste prendre ce pins et c'est pas un pins de décoration, c'est un pins d'affirmation, tu le prends, tu le mets et à partir de ce moment-là, tu affirmes que tu es une faiseuse.
Et finalement, ça rejoint un petit peu tout ce que tu disais tout à l'heure, et surtout un petit peu ta leçon de vie ou ta philosophie de vie. Écoute ton intuition, lance-toi et recommence.
C'est ça, complètement. En fait. C'est ça, non, mais tout est lié. Et d'ailleurs, juste cet homme qui a acheté, cet homme bienveillant qui s'appelle Julien, qui a acheté le pins, je fais aussi une résidence d'artiste à Maison Vide qui est à Cruny, donc c'est dans la région, c'est pour ça que j'en parle. Pendant 3 ans, on fait une résidence d'artiste avec 4 artistes et ça s'appelle Géographie du Sensible. Donc pour les gens qui sont curieux, on va faire des ateliers, je vais faire des ateliers de storytelling cette année. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, je ne sais pas quand est-ce qu'ils écouteront ça, ils pourront essayer de suivre Maison Vide, peut-être se joindre à ce qu'on fait.
Et ça, on va retrouver aussi toutes les informations sur ton site ou sur ton compte, on peut retrouver...
Ouais. En tout cas, sur mon site, tu peux trouver ce que je fais. Sur Instagram, tu peux vraiment retrouver ce que je fais au temps T, à l'instant présent. Mmh. Et surtout, tu peux me contacter.
D'accord. Donc, si un...
Je suis un être humain, je n'ai pas d'assistant, donc si tu m'envoies un email ou si tu m'envoies un message, je réponds.
Tu répondras.
C'est encore le plus simple.
Écoute, merci beaucoup.
Écoute, merci à toi.
Merci pour
ton écoute.
Pour tout ce partage, parce que là, tu nous as livré énormément d'informations. En tout cas, moi, j'en ai entendu beaucoup et je vais réécouter ça à plusieurs reprises pour bien tout assimiler, parce que c'était extrêmement riche. Donc, un grand merci à toi.
Et
puis, j'espère à très bientôt.
Ouais, mais moi aussi, merci beaucoup.
Bonjour à tous. J'espère, comme à chaque épisode, que cette rencontre a été enrichissante pour vous. Et je vous le disais en introduction, pour ma part, je me suis régalée pendant cette rencontre. Habituellement, dans la deuxième partie de chaque épisode, je partage avec vous une clé, c'est-à-dire un apport plus théorique, pour reprendre le thème de la première partie. Aujourd'hui, je trouve que la philosophie de vie de Nathalie est à elle seule toute une clé déjà. Et ce que je vous propose, c'est de vous focaliser sur sa phrase « Écoute ton intuition, lance-toi et recommence. » Si vous êtes dans une phase de questionnement ou une phase où vous avez envie d'amorcer des changements, essayez déjà dans un premier temps de réfléchir à cette phrase et de voir ce que ça donne, qu'est-ce que ça vous évoque. Un autre moyen aussi de se poser la question est de se dire « Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? Qu'est-ce qu'il se passerait si je savais faire telle ou telle chose ?» Je vous propose de réfléchir à ces phrases et ses interrogations, et surtout de décider consciemment de ce que vous voulez faire de vos réponses. Encore une fois, si vous êtes dans une phase où vous souhaitez amorcer des changements dans votre vie, Qu'il soit personnel ou professionnel, la priorité est avant tout de vous poser ces questions et ensuite de passer à l'action. Acceptez d'avancer pas à pas et en même temps, sortez de votre passivité ou dans le fait de subir les choses si vous êtes dans ce cas-là, bien sûr. Posez-vous les bonnes questions, prenez des décisions et passez à l'action petit à petit. Voilà pour ce 4e épisode. Avant de vous quitter, je tenais à vous rappeler 2 choses. Si vous souhaitez écouter l'interview de Nathalie dans sa globalité, elle est disponible sur le site www.cbcoach.fr. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour amorcer des changements, prendre des décisions et passer à l'action, je vous invite à me contacter et vous trouverez l'ensemble de mes coordonnées sur le même site internet. Et vraiment pour finir, je vous livre une toute dernière information. Pour poursuivre dans la lignée de l'épisode d'aujourd'hui, je peux d'ores et déjà vous dire que le prochain épisode ne sera ni plus ni moins qu'un exemple concret de quelqu'un qui a écouté son instinct, son intuition et qui s'est lancé et qui a réalisé son rêve le plus cher à l'âge de 40 ans. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.